Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Il me semblait intéressant ce matin de lancer le débat sur l'efficacité de la MONUSCO, la mission de l'ONU. Cela fait maintenant 21 ans que les casques bleus sont présents sur place et pourtant les mouvements rebelles continuent à sévir dans l'Est. En tout cas, mardi, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a affirmé que son pays avait encore besoin de la MONUSCO, mais une MONUSCO forte et dotée d'un mandat adapté à la guerre asymétrique. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration sur le terrain entre les casques bleus et les forces armées congolaises. Cet appel sera-t-il entendu? Comment améliorer l'action des 16 000 casques bleus présents en RDC? On en parle tout à l'heure sur RFI, vous êtes les bienvenus. C'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. J'ai jeté un coup d'œil évidemment comme tous les matins sur la page Facebook de l'émission, sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Les avis sont tranchés, on vous donnera la parole et si vous souhaitez d'ailleurs la prendre directement, vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Ibrahima.
Allô, bonjour.
Bonjour Ibrahima. Alors on va tendre l'oreille, on est en direct, mais vous êtes dans un bus entre Ziguinchor et Dakar. Vous êtes à Tambacounda, vous arrivez près de Tambacounda. En tout cas, vous avez des questions sur la situation en Côte d'Ivoire où l'opposition veut faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat.
Oui, effectivement, Juan. Mes questions sont les suivantes. Question numéro 1. Comment est-ce que l'opposition compte-t-elle organiser une marche alors que les manifestations sont...
Oui, l'opposition qui appelle à la désobéissance civile. Bonjour Pierre Pinto.
Bonjour Juan, bonjour Ibrahima.
Correspondant permanent de RFI à Abidjan, les principaux partis d'opposition appellent donc à manifester. Seulement voilà, Ibrahima le rappelait à l'instant, les manifestations sur la voie publique sont interdites.
Oui, interdite par décret jusqu'au 30 septembre au moins. Un décret qui a été pris après les violences du mois d'août dernier en marge des manifestations contre la candidature à un troisième mandat d'Alassane Ouattara, violences qui ont fait 15 morts. Alors ce décret, il a été pris en vertu de l'état d'urgence qui a été instauré initialement pour répondre à la pandémie de Covid. D'ailleurs, le décret autorise toujours, il faut le signaler, les rassemblements dans les lieux dits statiques ou les lieux clos. Alors l'opposition entend lancer des mots d'ordre de manifestation malgré cette interdiction parce que elle estime bien que le droit de manifester est garanti par la Constitution et c'est vrai, c'est l'article 20 de la Constitution de 2016. Alors tout l'enjeu est là. Est-ce que l'opposition va réussir à mobiliser dans la rue massivement malgré l'interdiction? Est-ce que les militants et les sympathisants de l'opposition vont par exemple prendre le risque d'être arrêtés ou même blessés dans une manifestation? C'est le pari de l'opposition et évidemment, Juan, le gouvernement et le RHDP font le pari inverse.
Oui, pour l'instant, en tout cas, l'opposition n'a fixé aucune date pour les premières manifestations.
Pas encore.
Ibrahima, vous avez d'autres questions?
Oui. Question numéro 2. Pourquoi Afingesan a-t-il finalement rejoint l'opposition?
Pourquoi a-t-il rejoint finalement l'opposition? Afingesan, bonne question, effectivement, d'Ibrahima. Afingesan, qui n'avait pas pris part à cette grande réunion de l'opposition dimanche à Abidjan.
Non, en fait, il comptait lui-même se rendre dimanche à cette grande réunion de l'opposition au siège du PDCI, mais au dernier moment, eh bien, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas invité. En tout cas, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses dans les 48 heures qui ont suivi, mais Pascal Afingesan et Henri Conan-Bédier, notamment, se sont vus ensuite, et Afi a finalement rejoint le mouvement. Dans une conférence de presse mardi, il a expliqué pourquoi. Il dit craindre un risque d'affrontement, voire de guerre civile. Il qualifie le régime Ouattara de dictatorial. Et pour lui, la seule solution, eh bien, c'est l'union de l'opposition. Comme les autres, il s'en prend au Conseil constitutionnel, qui selon lui a franchi une ligne rouge. Il déplore l'absence de réforme de la commission électorale et le rejet par le gouvernement des ordonnances sentence de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc si rien ne change, il n'ira pas au scrutin. Je ne serai pas le candidat d'un scrutin tronqué, un candidat factice. Bien évidemment pour moi, il n'est pas concevable de cautionner de quelque manière que ce soit un processus électoral qui serait par avance truqué. Fin de citation. Il appelle aussi les militants de la frange FPI qu'il dirige à se tenir prêts à la mobilisation. Nous irons jusqu'où M. Ouattara veut nous conduire, déclarait-il encore mardi dans une formulation sibylline, Juan.
Allez, une dernière question d'Ibrahima.
Quelles sont les intentions de Kouadio Konan-Bertin?
Ah, les intentions de Kouadio Konan-Bertin, lui aussi, absent de cette grande réunion de dimanche, où se situe-t-il, Pierre Pinto?
Et lui aussi candidat retenu. Alors j'ai appelé Kakabé hier pour avoir son point de vue sur cette entreprise de l'opposition, et il indique que d'abord, lui non plus n'a pas été convié dimanche, ni associé de près ou de loin à la démarche, et il ajoute qu'il ne cautionne pas ce genre d'aventure, c'est le terme qu'il emploie. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, je ne participe pas à ce qui la divise, ajoute-t-il. Dans l'opposition, beaucoup l'accusent d'être le sparring partner d'Alassane Ouattara, voire d'être de mèche avec lui pour en fait prendre des voix au PDCI d'Henri Colombédier. Une logique de diabolisation pour vilipender une candidature, répond-il. Mais si on ne veut pas d'élection, qu'est-ce qu'on propose d'autre aux Ivoiriens, demande-t-il. Pourquoi inscrire encore la Côte d'Ivoire dans cette spirale? Depuis 2000, on est dans cette logique, m'a expliqué le candidat dissident du parti d'Henri Colombédier. À 56 ans, Kakabé est l'ancien leader de la jeunesse PDCI, se pose toujours en candidat des jeunes, et il l'assure, lui, il participera au scrutin du 31 octobre prochain.
Voilà, 56 ans, effectivement, le plus jeune des quatre candidats retenus pour la présidentielle du 31 octobre. On en parlera évidemment demain dans la Libre Antenne. Beaucoup de réactions tout au long de la semaine pour commenter l'actualité ivoirienne. Merci beaucoup Pierre Pinto, je souhaite bon courage à Ibrahima qui est donc sur la route entre Ziguinchor et Dakar. Il est du côté de Tambacounda, il a donc 460 km encore à faire pour arriver à Dakar, la capitale sénégalaise. Bon courage Ibrahima. 339 693 693 70. Bonjour Roger.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez du nord de la France. Vous êtes à Laon exactement, c'est bien ça?
Tout à fait Monsieur Juan.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Alors, comme vous l'avez dit, je vous appelle de Hauts-de-France. Je suis professionnel de santé originaire de l'Afrique de l'Ouest et j'exerce depuis bientôt 2 ans ici en France. Alors, j'ai quelques questions par rapport à la circulaire de Madame la ministre française déléguée à la citoyenneté, Madame Marlène Schiappa.
Oui.
Donc, en effet, dans une circulaire récente, elle souhaite une accélération et une facilitation de la naturalisation des professionnels étrangers ayant été en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Alors, mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'il y a un quota de professions ou de personnes en termes d'effectifs qui pourraient être concernées?
Oui, faciliter l'accès à la nationalité française pour toutes celles et ceux qui ont pris une part active dans la lutte contre le Covid-19, notamment pendant la période de confinement. Marie Casadebé, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour Roger.
Journaliste au service France de RFI, sait-on combien de personnes sont concernées par cette mesure?
Alors déjà, une petite précision pour commencer, Roger, il ne s'agit pas d'une circulaire, mais d'un télégramme d'instruction. L'objectif, c'est donc pas d'informer les préfectures, mais de leur demander d'appliquer les instructions de la ministre déléguée dont vous avez parlé. Son cabinet m'a transmis ce télégramme et il ne porte aucun quota. Et l'équipe de Marlène Schiappa m'a bien précisé que ces naturalisations se feraient au cas par cas et sans limite de nombre prédéfinie. Alors pour ce qui est des professions qui pourraient permettre ces naturalisations accélérées, le télégramme cite les métiers de la santé, comme exemple, mais là non plus, pas de précision. C'est surtout le service rendu pendant le confinement et après qui doit être récompensé. Dans une interview, la ministre avait évoqué aussi les agents de sécurité, les éboueurs, ceux qui ont gardé les enfants pendant les 2 mois de confinement, les caissiers, les équipes de nettoyage, mais libre au préfet de mettre en avant d'autres travailleurs qui se sont démarqués pendant cette période.
Et concrètement, Marie Casadebé, qu'est-ce que ça va changer pour les ressortissants étrangers qui seront sélectionnés?
Eh bien, ils verront leur demande de naturalisation étudiée en priorité et la procédure accélérée. Certains pourraient même voir leur durée de stage réduite. Alors, il faut savoir que pour faire une demande de naturalisation, donc pour obtenir la nationalité française par cette voie-là, il existe plusieurs critères. Il faut notamment être en situation régulière, être détenteur d'un titre de séjour, par exemple, ne jamais avoir été condamné ou maîtriser suffisamment la langue française. Et un des autres critères, c'est la durée minimale de résidence en France, sauf exception, elle doit être de 5 ans. Il faut donc pouvoir justifier de 5 ans de vie sur le territoire français pour que la demande puisse être prise en compte. Et pour les personnes dont le service rendu pendant le confinement aura été reconnu, bien cette durée de résidence sera réduite à 2 ans.
Oui, en tout cas, c'est bien de rappeler, de préciser, d'insister que cette mesure, cette initiative ne concerne que les ressortissants en situation irrégulière, puisqu'on se souvient qu'avant de quitter le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner envisageait de régulariser plusieurs milliers de sans-papiers qui eux aussi ont été en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Et puis le nouveau ministre de l'Intérieur a clairement enterré ce projet. Roger, vous avez d'autres questions ?
Oui, une dernière question. Alors, est-ce que les préfectures ont assez de moyens pour traiter tous les dossiers qui pourraient être oubliés ?
Ah. Ont-elles les moyens ? Visiblement, les préfectures sont saturées, Marie.
Ah oui, alors tout à fait. En tout cas, c'est ce que disent les associations, que même dans certaines préfectures, il est impossible de prendre un rendez-vous pour une demande de naturalisation, tellement les services sont paralysés par les dossiers en cours. En 2019, 48 000 personnes ont obtenu la nationalité française par naturalisation. Cela fait déjà beaucoup de dossiers à examiner. Et quand on parle des moyens d'étudier tous ces dossiers, le cabinet de la ministre rappelle juste que les services des préfectures sont déjà amenés à faire ce travail, à organiser des entretiens avec les demandes donc de naturalisation. Les associations, elles sont très très sceptiques.
Ouais. En quelques mots, Marie Cazadebé, est-ce que vous avez des retours, puisque c'est vrai que cette initiative a été rendue publique il y a maintenant 2 semaines, est-ce qu'il y a déjà des retombées?
Oui, il y a certaines préfectures qui ont déjà présenté des dossiers au bureau de la ministre, mais le nombre n'a pas été précisé. Et puis des étrangers aussi qui se sont fait connaître, des gens qui dans l'absolu ne sont pas en France depuis assez longtemps pour faire une demande de naturalisation, mais qui grâce à leur activité professionnelle ou associative, pensent pouvoir l'être dès maintenant. C'est une initiative, si elle est qualifiée de symbolique, voire démagogique par les associations, rappelle une réalité, vous l'avez dit, énormément de ces travailleurs qui n'ont pas pu stopper leur activité pendant le confinement parce que cette activité était considérée comme indispensable. Sont issus de milieux populaires, parfois immigrés. Certains aimeraient donc devenir français, peut-être là, à l'occasion de ce télégramme. Ils vont pouvoir le devenir plus vite. Et je vous propose d'ailleurs qu'on en reparle dans quelques mois pour faire un bilan, voir ce que ça a donné.
Ah, on suivra évidemment de près le bon déroulement ou pas de cette initiative. Roger, vous êtes, j'imagine, puisque vous nous avez appelé, vous nous avez posé des questions sur ce sujet, j'imagine que vous êtes directement concerné. Vous-même, vous avez envie de faire une demande de naturalisation ?
Oui, tout à fait, il y a cette possibilité.
D'accord. Bah écoutez, on croise les doigts, vous nous tenez au courant ?
Tout à fait.
Appelez-nous et dites-nous, racontez-nous l'évolution de vos démarches. Bon courage, Roger, Marie Cazadebé du service France de RFI, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. 33 9 693 693 70, je regarde la page Facebook de l'émission, les messages continuent concernant la MONUSCO, son avenir en République démocratique du Congo et surtout cet appel du président Tshisekedi cette semaine devant l'Assemblée générale des Nations Unies qui affirme que la RDC a encore besoin de la MONUSCO, une MONUSCO plus forte et avec un mandat plus adapté à la situation sur le terrain. Donc continuez à réagir, nous vous donnerons la parole dans un bon quart d'heure. Bonjour Radio.
Bonjour Juan et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la RFI.
Et merci à vous de votre fidélité Radio. Vous êtes au Togo, à Lomé, et vous avez des questions concernant le mouvement de contestation en Thaïlande.
Tout à fait Juan. En Thaïlande, des dizaines de milliers de personnes ont défilé la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre et une réforme de la monarchie. Alors, Juan, comment expliquer que le mouvement a pris une telle ampleur ces derniers jours et pourquoi les collégiens, les jeunes se mobilisent-ils massivement ?
Ah oui, les jeunes, la jeunesse thaïlandaise, fer de lance de ce mouvement de contestation. Alors, ils étaient effectivement des dizaines de milliers le week-end dernier à manifester dans les rues de Bangkok, mais cela fait quand même des semaines que les militants pro-démocratie manifestent. D'ailleurs, en ce moment même, ils manifestent devant le Parlement. Sophie Boisseau-Durocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Nous le disait à l'instant, les revendications sont multiples. On entend les manifestants réclamer davantage de démocratie, réclamer la démission du Premier ministre et surtout réclamer une réforme de la monarchie. C'est du jamais vu en Thaïlande que les jeunes descendent dans la rue et critiquent la monarchie.
Oui, alors c'est effectivement la première fois. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même une demande annexe des étudiants. Leur combat porte d'abord sur le régime politique en cours et subsidiairement sur la question de la monarchie. Alors c'est un fait nouveau parce que jusqu'ici personne n'avait osé s'attaquer à cette institution. Le fait nouveau peut-être, c'est que la Thaïlande a un roi qui est effectivement contestable, ce qui n'était pas le cas de son père, qui était une personne vénérée, voire adorée. Et donc on a là une nouvelle configuration, une brèche dans laquelle s'engouffre la jeunesse thaïlandaise.
Oui, un roi pour le moins controversé. Il est rarement en Thaïlande, il voyage beaucoup, il dépense énormément d'argent. Les manifestants estiment que sa fortune, qui est considérable, on parle de 30 à 40 milliards d'euros, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas fortune considérable, eh bien cet argent ferait mieux de retourner dans les caisses de la Thaïlande qui en ce moment traverse une période d'instabilité économique. Il n'y a pas de touristes, donc il y a moins d'argent dans les caisses de l'État. Mais ce qui est quand même intéressant, Sophie Boisseau-Durocher, c'est que jusqu'à présent, personne n'osait contester la monarchie et que la loi est très sévère. C'est-à-dire que si vous critiquez la monarchie, 15 ans de prison en Thaïlande.
Oui, il y a effectivement le fameux article 112 de la Constitution qui, sous prétexte de crime de lèse-majesté, emprisonne à tout va ceux qui critiquent même de très loin la monarchie. Et effectivement, aujourd'hui, dans les prisons thaïlandaises, il y a plusieurs centaines de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont sous les verrous parce qu'ils ont osé critiquer la monarchie, la façon dont le roi vit. Vous l'avez rappelé, il vit en Bavière, il vient en Thaïlande très rarement et de façon très courte. Et surtout, les premières décisions qu'il a prises après son intronisation ont été de renforcer ses pouvoirs personnels, d'une part à l'égard de l'armée et d'autre part à l'égard de sa fortune. Vous l'avez rappelé, elle est colossale, entre 40 et 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, cette fortune est gérée par des cabinets qui n'ont aucun compte à rendre au ministère des Finances. Oui. Ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est évidemment fortement contesté.
Radio, excusez-moi, Sophie Boisseau-Durocher, le temps passe très très vite. Radio a d'autres questions à vous poser et on n'a toujours pas répondu à sa deuxième. Pourquoi ce sont les collégiens et les étudiants qui se mobilisent majoritairement ?
Alors, ce sont les étudiants parce que en 2018 a été formé un nouveau parti, le parti Anakot Mai, le parti du Nouvel Avenir, qui s'adressait d'abord aux jeunes, à la jeunesse urbaine, pour renverser le système. Ce parti a gagné environ 150 sièges aux élections de mars 2019 et il a été dissous en février 2020. Et c'est à partir de cette dissolution, pour des prétextes plus ou moins fallacieux, que les jeunes sont descendus dans la rue. Ils ont été arrêtés avec le Covid et le confinement et ils sont revenus dans la rue pour contester cette dissolution et les pratiques politiques du régime en place.
Dernière question de Radio, il nous reste une petite minute.
Que représente le salut à trois doigts qu'on aperçoit sur les photos des manifestants?
Ah, c'est vrai que les jeunes manifestent avec les trois doigts levés, l'index, le majeur et l'annulaire.
Hunger Games, qui a été adopté par les manifestants dès 2014, donc c'est pas nouveau. Mm-hmm. C'est une espèce d'acte symbolique, de défi pacifique, qui veut dire en fait que c'est un signe de ralliement entre les jeunes et cela indique de façon pacifique, non violente, que on s'oppose au régime actuel.
Merci beaucoup Sophie Boisseau du Rocher d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à Radio, à qui je souhaite une belle journée à Lomé, capitale du Togo. Dans 30 secondes, on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après pour parler de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Quel sera son avenir? En tout cas, pour l'instant, le président Tshisekedi a été clair, son pays a encore besoin des casques bleus, à condition évidemment que la mission de l'ONU soit plus forte et surtout qu'elle soit adaptée au contexte de l'Est de la République démocratique du Congo. A tout de suite.